Bonjour, autre radio, autre culture, émission également relayée par audiopeople.fr. Aujourd'hui, nous recevons avec aussi un grand plaisir deux personnes, Fred Giscra.
Bonjour.
Et Asdine. Bonjour Fred, bonjour Asdine.
Bonjour.
Alors Fred a plusieurs cordes à son arc, il est musicien,
oui.
Il est également manager,
ouais.
Tourneur, et il fait du développement d'artistes.
Tout à fait.
Alors il va nous expliquer ça, et Asdine est quelqu'un que j'estime énormément et que j'admire au niveau musical.
Merci.
Qui est notre bluesman avec un, comment ça s'appelle, une sensibilité...
Exacerbée, je dirais.
Exacerbée.
Multiculturelle.
Voilà. Alors, Fred, quelle différence y a-t-il entre un manager et un tourneur? On met tout ça tout de suite à
sur
plat.
La table.
Voilà.
Ok. Bah, manager-tourneur, c'est totalement différent. C'est-à-dire que le manager, c'est un peu le papa et la maman de l'artiste, et c'est un peu la jonction, donc celui qui l'habille le matin, et jusqu'au moment où il va dealer un contrat en maison de disque ou en maison d'édition. Ça, c'est assez simple. C'est le métier le plus dur du monde, à mon avis. Respect pour mes ancêtres polonais dans les mines, parce que c'était pas facile non plus. Enfin, bref. Tourneur, maintenant, c'est autre chose. Il y a plusieurs sortes de tourneurs, des petites structures, des grosses structures. Les grosses structures, que moi j'appelle tourneur, effectivement, prennent les gens en collusion totale avec les maisons de disques, par un vieux délit de grivellerie évident, pour développer des trucs qui sont déjà 50 000 ou 80 000 exemplaires. Donc c'est pas vendu, je veux dire. Donc c'est pas tellement difficile. Par contre, après, il y a le développeur de talent, qui sont des tourneurs de plus petites structures, qui eux, par contre, vendent pas des barils de lessive, et font pas un affichage de 40 000 artistes qu'on peut proposer dans toutes les salles du monde et de Navarre. Et donc là, travaillent avec quelques artistes et font un petit peu, donc la jonction, et se souvent aussi manager d'ailleurs, donc font un peu la jonction entre le boulot d'habiller l'artiste jusqu'au moment où on le produit sur scène, mais avec beaucoup plus de gens et des gens vraiment beaucoup plus petits, quoi.
Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce travail?
C'est un concert de... Enfin, des concerts et un amour violent d'un groupe que j'écoutais quand j'étais petit, en 76-77, qui s'appelait Clash, quoi. Une série de concerts, notamment Magador, un peu avant au Palais des Sports, encore avant au Bataclan, par exemple, qui vraiment, moi, faisait la synthèse d'une vraie vie, quoi. Sur un engagement politique, d'une part, et puis de la pure musique... Depuis, on n'a jamais fait, quoi. Donc, voilà, quoi. London Calling, pour moi, c'est le meilleur album du monde. Et personne ne l'a détrôné aujourd'hui. Et je parle de Marley, je parle d'Hendrix et compagnie. Donc, ça va haut, quand même. Hein. Donc, ma petite affaire. Alors, c'est très subjectif. Je m'en excuse, mais c'est comme ça. Donc, grâce à ce groupe-là, je voulais faire ça. Voilà. Il y a des gens qui veulent être Zidane. Moi, je voulais être Joe Strummer. Voilà.
Bon, tu prends pas non plus le groupe le plus simple, hein. Les Clash, ça a quand même une renommée.
Ouais, mais à l'époque, je suis désolé, le Clash à l'époque, même nous, quand on était quepons, tout petits à 13 ans à la Fontaine des Innocents, quand ils ont sorti le deuxième album, pour certains, ils avaient déjà trahi la cause, quoi. Donc, moi, je suis pas d'accord. Ils commencent à s'ouvrir. Et dans le mouvement punk et autres, j'ai un grand respect pour les Sex Pistols, même si c'était un montage financier à la McLaren, mais bon, bref. Mais le Clash, c'est un vrai, quoi. Ils ont évolué avec leur temps, ils ont vendu London Calling un double au prix d'un simple, ils ont vendu Sound in Stade de la même façon, bref, et puis c'était et ça déchire, et aujourd'hui ils vont inspirer tout le monde, quoi, de la Mano Negra que je connais bien, à n'importe qui, quoi, tous les gens aujourd'hui qui font pas des reprises d'eux, mais tout le monde jusqu'à Lewis, donc l'international du jean qui reprend Should I Stay or Should I Go pour une pub télévisée, quoi. Donc moi je suis désolé, c'est la référence gravissime. À l'époque, il y avait deux albums qui déchiraient, c'était London Calling, les deux albums de l'année, tiens, Philippe Manœuvre, Marc Zermati et compagnie, il y avait London Calling et puis The River.
Voilà,
j'ai un grand respect pour Springsteen aussi.
Il y avait aussi Joe Jackson, à même époque.
Ouais, mais bon, je l'aime bien Joe Jackson, mais c'était largement en dessous, quoi. Largement.
Ouais, je trouve que
bref. Lequel? I'm a Man, A Bit Crazy, quel album?
Non, celui avec la chaussure.
Look Sharp.
Look Sharp. Voilà.
Ok. Exactement. Mais bon, c'était quand même largement en dessous, quoi, à l'époque.
Bref. Ouais, voilà. Moi, je les ai tous mis au
moi,
même
je crois
plan
pas,
à l'époque.
Le Clash était un peu autre chose, quoi. Enfin, bref.
Voilà. Donc, et tu étais musicien. Alors, quel
et
était...
Ouais, et donc avec des potes. Donc, moi, j'habite à Colombes, c'est un petit village irréductible, un peu soviète, les derniers soviets du 92, quoi, tu vois, un mélange international, Renoir, Rebeu et Manouche, quoi, et tous les gens de tous les horizons, quoi. Où il y a des familles de potes comme ça qui durent. Enfin, il y en a peu, mais qui durent au fil des années. Et finalement, quand on était grand, on a décidé de faire ça, tu vois, un peu de s'occuper un peu de la musique, globalement. Et donc, on a fait de la musique depuis le Clash, depuis la musique jamaïcaine, tu vois, les Studio One, depuis les premiers ska, quoi. Il faut savoir que le reggae vient du ska, qui a été inventé par les Skatalites, tu vois, l'indépendance à peu près dans les années 62, quoi. Et notamment par un mec qui est mort, un grand tromboniste qui s'appelle Don Drummond, voilaire. Et donc on a été élevé un peu à cette sauce-là. Voilà, et donc il fallait en faire, parce qu'on avait des grandes gueules, donc bon, c'est bien, mais tu vois, on a un peu la vertu de l'action à la trotskiste aussi, quoi. Donc on a fait les choses, donc on a décidé de faire de la musique aussi, justement un mélange de rock, de reggae. Bon, des choses bizarres, quoi, tu vois, quand on était môme, donc tu joues pas très bien, puis tu progresses peu à peu. Puis au bout d'un moment, on s'est dit que, de toute façon, les autres, c'était tellement tous des nazes que, on avait décidé de tout faire, donc de la musique en tant qu'artiste, soit pour nous, soit pour d'autres groupes, s'occuper d'une salle, donc produire des jeunes groupes et développer des jeunes talents, des amateurs, des gens très connus, donc ça allait vraiment à tous les niveaux, avec toujours ce degré clashien. Je reviens là-dessus. Politique et sociale, je veux dire, de développement de la musique. Et on en est en plein aujourd'hui. Je sais pas si on aura le temps de tout développer, mais bon, on y est vraiment. Ensuite, de produire des à l'époque, hein, je parle de ça, c'était en 92, donc ça existait pas encore, hein, de produire des petits CD pour un certain nombre de groupes qu'on pouvait balancer à gauche à droite pour essayer qu'eux-mêmes trouvent des concerts, parce qu'ils n'avaient pas la thune pour pouvoir s'enregistrer de façon correcte. Et ensuite, donc manager des groupes, faire de la formation, parce que c'est super important, justement, donner des renseignements, était une espèce de bourse de travail de pouvoir fournir au moins l'officiel du rock pour un groupe qui arrive et qui veut tourner en banlieue, donner quelques conseils. Bon, on n'est pas philosophe, mais on essaye de faire le maximum à ce niveau-là, quoi. Bref, donc on a essayé de faire un peu tout, de boucler la boucle, et après de développer des gens, de manager des gens et de faire tourner des gens pour continuer à les développer à un autre niveau, quoi.
Une vocation, en fait, puisque ça, visiblement, ça commence tôt.
Ouais, ça commence tôt. Ouais, ça commence tôt, ouais, super.
Et tu es arrivé à ce moment-là à avoir une écoute de la part des politiques ou des...
Disons que nous, on est arrivé un peu en fireball, quoi. Comme on faisait sur scène à l'époque, parce que on était avec des gens comme Pierre-Paul Jacques, comme Farid, enfin des gens qui avaient vécu vraiment le mouvement Quepon en 77 et qui savaient de quoi ils parlaient au niveau de la musique, etc. etc. Donc on amenait un peu les choses de façon un peu en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'on a un peu fait passer les choses au forceps, quoi. Notamment sur le développement du cadran. Moi, je suis arrivé dans des réunions comme... En 93, on a créé une fédération de salles qui s'appelait la Fée du Rock, qui existe toujours aujourd'hui, qui est super célèbre, et etc., etc. Et moi, je me suis trouvé confronté à des gens qui étaient donc déjà beaucoup plus vieux que moi, d'une part, et qui étaient responsables, comme le plan Harry Sarrangis, comme des choses comme ça, qui existent toujours, mais qui avaient déjà beaucoup l'habitude de ces côtés labellisation Café Musique ou SMAC, etc., etc. Donc le travail avec les ministères et autres, et où je trouvais que par rapport au non-développement de talent, parce qu'on en est là aujourd'hui, et moi c'est ça qui me fait pitié, quoi, par rapport à ces salles qui sont issues des cafés musique, en gros, déjà ils avaient beaucoup d'argent, et je trouvais qu'ils en branlaient pas lourd. Donc moi je suis arrivé, je leur ai dit, il y avait Gérard Michel de l'Élysée Montmartre, il y avait des grandes personnes à cette époque-là, à la Fée du Rock, qui sont parties peu à peu, ça allait de la laiterie, on était 15, hein, donc c'était pas très, très difficile à voir. Et nous on avait l'avantage d'être des potes, donc de se démerder à la Quepon style. Il n'y avait pas encore la licence d'entrepreneur spectacle, on l'a eu très vite après, mais pour l'instant ça n'existait pas, les gros producteurs couinaient pas un peu encore dans les chaumières, mais ça n'a pas tardé à arriver, et on pouvait faire un peu notre vie, c'est-à-dire que si on ne gagnait pas d'argent, et ben c'était pas grave. Ou si on en gagnait, ben on investissait sur du son. On essayait de se payer un groupe un peu plus connu à l'époque, au Cadran. Et on avait l'avantage d'avoir 700 places dans un lieu mythique qui avait accueilli Hendrix, les Yardbirds, Jimmy Cliff, les Wood, Dutronc, Jonas, Paul Naref dans les années de 66 à 69. Quoi. Donc on avait, et ça en centre-ville, c'est-à-dire qu'on faisait pas de la à Colombes, dans notre banlieue, que je respecte profondément, quoi. On faisait pas ça dans les quartiers, c'est-à-dire que c'était en centre-ville et que la culture, pour moi, il y a pas les crétins qui habitent dans les tours et qui ont une mairie de quartier ou une scène de musique actuelle de quartier, c'est-à-dire de seconde zone au pied de leur immeuble. Non, là, c'était la musique pour tout le monde. Pour les établis, les gens qui avaient de l'argent, qui avaient 40 ans, 45 ans, et pour les jeunes des quartiers qui venaient, qui se rencontraient justement, quoi, à ce moment-là, quoi. Donc, mixité des expériences et mixité des populations avant tout. Parce que si les gens se mélangent pas, tu l'as dans le cul. C'est pas la peine de décréter une politique ou un plan global des cités de Mekou et Angelais. Il faut que les gens discutent entre eux. Voilà. Donc, il faut des lieux comme ça, où les gens se confrontent. C'est tout, quoi. Tu vois, et nous, on faisait beaucoup de prévention à l'époque. Bon, maintenant, tu rigoles, quoi. Mais que ce soit avec AIDS, avec ACT UP et compagnie, on faisait beaucoup aussi de prévention là. Beaucoup de tests de défonce in situ. On a fait les premières raves. On s'est fait atomiser par tout le monde parce qu'on est quand même dans le 92. C'était quand même Pasqua à l'époque qui était le taulier. Je me demande si c'était pas mieux que maintenant. Enfin, bref. Et on faisait quand même ça. On s'est fait assassiner par tout le monde, par les renseignements généraux et autres. Mais au moins, les mômes et tout, ils pouvaient venir se renseigner, discuter avec des gens qui ressemblaient, qui avaient la même gueule qu'eux, sans aller dans des bus médicaux pour ne pas y aller, en fait, quoi. Donc là, encore une fois, l'information a passé beaucoup mieux dans ces lieux informels, parce que moi j'aime bien cette réflexion à la marge toujours, quoi, parce que je pense que c'est là que tout se développe. Donc voilà, cette expérience, ça a duré 10 ans. On a fait de 92 à 2002. Le Cadran, pour les gens un peu wesh-wesh, c'est là où était tourné Le Goût des Autres, notamment. Jaoui Bakri, bref, et qui a vu des rencontres entre Manu Chao, Daddy Yod, des trucs un peu informels, quoi. Bref, dernier concert des Negu Goriak, dernier concert des Satellites. Ça, c'est pour les vieux hein, qui connaissent, hein, mais bon, bref. Voilà, développement d'un million de choses, quoi, super cool. On a fait Diams, on a fait M, Faudel, Louise Attaque le même soir. On a eu cette chance-là. Bon, voilà, quoi. Et puis, on a développé tous nos plein de potes, vachement super talentueux, et ce qu'on continue à faire aujourd'hui. Voilà, quoi. Donc, moi, je fais respect pour Asdin aussi, avec qui on bosse.
Oui, parce que là, j'ai appris récemment que tu t'étais intéressé fortement à Asdin. Et.
Bah, n'y voyait aucune allusion.
Moi aussi, je m'intéresse à lui.
Et ouais, parce que c'est une vieille histoire, parce qu'il a, débarqué au Cadran, enfin, pas au Cadran, mais bon, bah, parce que le Cadran a arrêté en 2002. Il y a eu un changement de municipalité à Colombes. Ça a à nouveau rechangé, là. Bref, mais en 2002, donc c'est passé à droite. Donc ça a eu une tendance fascisante globale et où les concerts et autres choses ont été interdits, mais un peu en couvre-feu à partir de 11h le soir, enfin de 23h pardon le soir, donc on n'a pas pu vraiment évoluer et faire avancer les choses d'une part. Donc on a des bureaux ailleurs, peu importe maintenant, et on bosse, on est content, on est à la Bourse du Travail à Colombes, donc avec la CGT, la CFDT, tout plein de vieux modèles, moi que je respecte, hein, bon bref. Et là voilà, et un jour Asdin il débarque, amené par un pote, pareil, un vieux pote, et on commence à discuter, on trouve ça plein de points communs et beaucoup de talent, enfin ce qui me concerne pour lui, quoi, pour sa musique. Et donc voilà, on a commencé à bosser ensemble. Alors bon, nous on n'est pas des génies, donc pour l'instant il est toujours pas la nouvelle star, hein, ni à la Star Academy, il a pas vendu 2 millions de scuds, mais c'est pas grave, on va essayer de faire avancer le truc, et bon voilà, quoi, et on essaie de grandir ensemble, c'est ça.
Alors justement, par exemple, comme un artiste comme Asdin, quels sont les moyens pour arriver à le hisser à l'échelle nationale ?
On vit aujourd'hui dans une période particulière, que tout le monde connaît, c'est-à-dire que le scud et les maisons de disques se plaignent, ont mal aux fesses, forcément, parce qu'ils gagnent, c'est pas qu'ils gagnent plus d'argent, c'est qu'ils gagnent beaucoup moins d'argent qu'ils ont gagné il y a une dizaine d'années. Donc voilà, quoi. Donc développer des artistes comme Asdin ou autres et de les amener chez Barclay ou là où t'as une chez Sony, chez EMI, là où t'as des entrées, c'est pas toujours évident. Parce que maintenant, de plus en plus, il faut créer le buzz avant. Tu vois, tu as des exemples grâce au net, parce que le net, ça nique l'affaire d'un côté, mais ça permet à des gens qui, de toute façon, n'avaient pas droit de citer à l'époque, de peut-être se faire connaître, quoi. Tu vois, style Camini, style beaucoup d'autres. Enfin bon, et de créer une pression à partir du moment où, où le public dit bah, c'est vachement bien et tout. Super. Terrible. Donc là, tu commences à pouvoir avoir des deals intéressants et puis avoir les moyens de faire des produits de qualité et puis avoir les moyens de les médiatiser. Le problème, c'est l'accès aux médias, de toute façon. En France, c'est la distribution qui pose problème. Même quand nous, on avait une salle qui avait pignon sur rue, qu'on pouvait donc développer, qu'on avait créé des gros réseaux départementaux, régionaux, nationaux, où tu peux faire passer les disques à tes potes qui font le même boulot que toi à travers la France, donc facilement développer, au moins sur scène les gars, et ben là où on n'a jamais réussi, c'est sur la distrib. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de borne d'écoute, il n'y a jamais eu de choses intéressantes et de distribution indépendante en France. Jamais. Puisque de toute façon, mis à part aujourd'hui par le net, où chacun peut vendre son album ou se démerder là-dessus. Mais avant, tu n'avais pas des shops où tu pouvais avoir un truc. Nous, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment, avec ces réseaux de salles, c'est de créer des bornes d'écoute comme à la Fnac, comme chez Virgin à l'époque et tout, où si les mecs ils écoutaient le truc, ils achetaient un CD, je sais pas, 5€, si ça leur plaisait, quoi. Voilà ce qu'on aurait voulu faire, qu'on n'a jamais réussi à faire. Le gros problème, c'est là où ça bloque, à mon avis, quoi.
Et justement, pourquoi ça bloque, là, à ce niveau-là?
Parce que, t'imagines, développer et distribuer, faire de la thune pour avoir pignon sur rue, développer et distribuer des choses. Alors à l'époque on était au temps de l'écriture au 19e siècle, si tu veux, il y avait pas le net et tu vendais pas ton truc sur le net comme tout le monde fait aujourd'hui. C'était pas aussi facile, tout le monde a son MySpace aujourd'hui, donc c'est beaucoup plus simple. Si tu kiffes sur un mec, à la limite tu peux même lui parler. Donc c'est
oui,
cool.
Oui, mais encore faut-il le trouver, parce que arriver à trouver il y a tellement de monde maintenant dans ces dans par exemple MySpace, il y a quand même énormément.
Si tu cherches un artiste, tu le trouves. S'il a son MySpace, tu le trouves.
Oui, mais tu peux pas le découvrir, c'est ça que je veux dire.
Le découvrir comme ça?
Et ben, c'est-à-dire, tu peux pas découvrir comme ça un artiste, c'est vraiment ça, c'est du domaine du hasard.
Ah bah si, mais il y a des mecs qui, justement, il y a des mecs, moi je fais pas ça parce que je suis vieux, moi, donc l'informatique c'est pas mon truc, aller chiner sur le net pour voir des trucs comme ça et passer 2 heures par jour, franchement j'ai déjà pas le temps, puis ça me saoule, mais il y a des gens qui font ça et qui découvrent des artistes, oh mortel, et ça part de là. Parce que Camini, c'est quand même venu de là jusqu'à la signature Maison de Scud et compagnie, puis après médiatisation. Mais c'est ça le truc, c'est amener le produit, parce que là ça marche mieux. Les gens se déplacent et vont voir des concerts en live. Parce que moi je trouve que c'est le mieux du monde, quoi. C'est la différence entre le théâtre et le cinéma, tu vois. Où là, le chum il se plante, tu le vois en direct, il se plante, c'est pas grave. Tu vois, on parle aux gens en vrai, quoi, tu vois. Notamment dans des petites salles où t'as un vrai truc, un vrai échange entre les gars, quoi. Et ça, c'est super. Maintenant, comme là, c'est difficile, et puis que les prix des places, c'est pas donné maintenant, tu vois, dans n'importe quel bar, tel café musique ou autre, ou salle fait du rock, attends, vas-y, tu vois les prix, tu te tires des balles. Alors, notamment à Paris, où tu vas voir un concert de n'importe qui, même à l'Élysée Montmartre, qui doivent pas être les plus chers, tu meurs, quoi, tu vois, un concert d'NTM, là, t'as vu combien c'est à Bercy, enfin bon, bref, c'est pas la portée de tout le monde, quoi, tu vois. Soit les mômes, ils achètent une place dans l'année, soit avec cette place, et ben, ils vont voir 5 concerts. Ils ont le choix, hein, en début de l'année. De toute façon, c'est pas extensible, quoi, la thune, quoi. Donc, bon, voilà le truc. Si c'était moins cher, ils pourraient le découvrir là. Maintenant, sur le net, ou à la télé ou autre, tu peux découvrir les choses beaucoup plus facilement. Bon, sauf qu'à la télé, tu commences à découvrir les trucs quand c'est déjà super connu. Parce qu'avant de faire une pub télé et compagnie, compte tenu du prix ou autre, bon, il faut que l'artiste ait déjà rapporté quand même à la maison de disques ou à la personne qui s'en occupe. Bref. Ou alors après, t'as la dernière méthode. Et je pense qu'on va revenir avec ça. On va revenir à ça. On va revenir au punk styly, à mon avis, à tous les niveaux. Au niveau des producteurs, au niveau des salles, à tous les niveaux. C'est de tout faire à la sauvage, quoi. Parce que moi, je me suis battu longtemps aussi pour la reconnaissance du métier, la reconnaissance des formations, la reconnaissance de tout, tu vois, que ça soit pas un métier de bohémien, mais que ça soit reconnu à tous les niveaux, par les pouvoirs publics et autres. Mais aujourd'hui, personne ne veut rien comprendre, quoi, tu vois. Il y a tellement de barrières administratives pour chaque chose, pour organiser des concerts, pour pouvoir jouer. Parce que là, les gamins, aujourd'hui, tu joues, là. Tu peux plus jouer aujourd'hui. Puisque sinon, tu joues à partir du moment où tu rapportes. Comme forcément au début, tu rapportes pas, tu te situes dans la phase amateur. Mais aujourd'hui, les salles, tu peux pas faire passer de la musique amateur, c'est pas possible. C'est interdit par la loi au bout d'un certain temps, tu vois, t'as le droit d'organiser 6 concerts à l'année. Puis après, walou, Tu vois, à partir, dès que tu fais une affiche ou autre, tu rentres dans le cadre légal d'une profession qui s'appelle producteur de spectacle. Voilà, donc voilà. Donc c'est bien, moi, respect. Respect pour tout, respect pour l'intermittence. Moi, je suis un intermittent de spectacle aussi, donc tu vois, je fais pas le gros con, machin. Mais à côté de ça, il faut que les jeunes puissent jouer. Et aujourd'hui, eh ben, dans des bonnes conditions, c'est difficile de jouer en France. C'est le problème. Si tu joues pas, t'apprends pas ton métier. Si t'apprends pas ton métier, tu vas pas être meilleur, tu vas pas aller à l'encontre de ton public, et jamais tu feras un produit discographique, à mon avis, à moins d'un coup de chance, de qualité. Alors si déjà il est de qualité, c'est bien, parce qu'après il faut le médiatiser encore, le boulot commence quoi. Donc t'imagines, la misère.
Justement, j'avais eu des conversations comme ça avec des politiques en leur disant que au niveau de la culture, tout était trop compartimenté et qu'effectivement les gens n'arrivent pas, enfin les artistes n'arrivaient plus à se mouvoir dans l'espace culturel français parce qu'on avait fait du corporatisme à haute dose et qu'ils ne pouvaient, ils n'avaient plus la liberté et il n'y avait plus cette volonté de vouloir mettre en avant des jeunes ou enfin je dirais des artistes nouveaux, voilà. Alors on a par exemple la salle ici, l'auditorium de Saint-Germain, qui est quand même une des meilleures salles au niveau du son enfin à Paris, hein. Et c'est une salle qui ne marche pratiquement pas, donc ils l'ont ouvert à des amateurs, à des associations. Mais il n'y a pas une volonté de vouloir faire des concerts. Ils pourraient faire des concerts tous les soirs, finalement, avec des jeunes groupes et faire découvrir. Et on ne l'a pas non plus. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ces cas-là pour arriver à faire bouger les choses?
Il faut qu'il y ait des têtes de cons dans notre style qui bougent leur cul eux-mêmes et qui prennent d'assaut les... alors pas les ministères d'un coup, parce que ça va pas marcher. Ils vont prendre des coups, faut faire attention quand même. Mais qu'ils aillent dans leur quartier, voir s'il n'y a pas des salles qui traînent, s'il n'y a pas des gens, que ce soit des privés ou des publics, qui seraient susceptibles, alors les privés, de gagner d'argent. Parce que tu gagnes vite de l'argent en vendant de la limonade aussi. Donc c'est important, mais il faut le savoir, parce que ça peut intéresser l'autre. Parce que toi, ce qui t'intéresse, c'est de te produire ou de produire d'autres gens. Donc s'il y a le lieu, eh ben, faut investir les lieux. C'est ça, quoi. Faut prendre ses responsabilités et bouger son cul. Pas se plaindre. Surtout pas se plaindre, parce que personne ne va rien faire pour ta gueule. Donc, ni là, ni aux autres niveaux. Hein, parce que moi, le musicien, l'intermittent, tout, il y a plein de gens qui se plaignent, mais il y a plein de gens qui vivent la misère partout, qui vont à l'usine tous les jours et tout. Donc, moi, je respecte, tu vois, vraiment le travail. Et je vois que ça avance à tous les niveaux. Donc, je fais pas du corporatisme non plus au niveau musical, mais il faut calquer un peu les avancées, quoi. Il faudrait libéraliser l'IVG dans la musique actuelle. Tu vois, j'abuse exprès, mais faut vraiment y aller, quoi. Tu vois, parce que là maintenant, il y a un peu trop de lois. L'histoire, c'est pas une histoire de thunes, parce que la thune, on peut pas la développer. Tu regardes aujourd'hui au niveau du budget de l'État, là, je sais pas Sarko, je sais pas quand est-ce qu'il va nous présenter ses mesures sur les 25 000 siècles à venir pour résorber le déficit de l'État. C'est pas une histoire de quantité, de volume, c'est une histoire de répartition au niveau du budget de l'État. Il faut faire des choix, c'est tout, quoi. La culture, elle est même pas 1%, ok? Mais dans ce 1%, c'est déjà énorme. Et ben, qu'est-ce qu'il y a dans ce 1%? Il y a l'opéra. V'là comment ça pompe. T'as toutes les scènes nationales. V'là comment ça pompe. Le patrimoine, au secours. Et il reste, par rapport à ce qui rapporte le plus au niveau économique et de façon libérale, c'est-à-dire la musique qui se vend en Fnac, à la télé et compagnie, il reste que dalle. Alors que c'est eux qui font 90% du chiffre d'affaires, quoi, tu vois, en parlant un peu libéral. Parce qu'il faut, se mettre dans la tête que, de toute façon, le capitalisme, jeune ou moins jeune, on a voulu le niquer, bah, c'est quand même ce qui est plus efficace. Mais. Comme c'est plus efficace pour la production, il faut le slack apparaître pour répartir au niveau des trucs à développer, quoi. Tu vois, donc c'est la répartition qui pose problème.
Enfin, moi je trouvais que ce qui me gênait le plus au niveau de la politique, c'était justement, et tu en parlais tout à l'heure, ces espèces de lois qui permettent de ne pas rendre libre un artiste finalement.
Ouais, mais non, mais là, non, attends, j'ai pas dit ça. Hein. L'artiste est toujours libre. Le problème, c'est que la loi. Non. Mais la loi, c'est que les petites associations, les petites nanciers de bistrot, etc., etc., comme les gros producteurs ont dénoncé à un moment ou à un autre une concurrence déloyale, ils ont pas tort quelque part, hein, tu vois. Donc il a fallu créer quoi? La licence d'entrepreneur de spectacle. pour rentrer à même dans le champ de la réalité et d'appeler un chat, pour après avoir accès à un certain nombre de choses, donc à plein de subventions, etc. etc. Parce qu'aujourd'hui, si t'as pas cette licence, tu peux pas vivre, mis à part 4 concerts épars dans l'année. Bref, c'est pas facile, quoi. Mais ça, c'est une histoire de contrôle. Après, les musiciens, ils sont libres. Là, il y a plein d'assos qui peuvent facilement avoir cette licence et puis agir après. Bref, le problème, c'est quand ça rapporte pas énormément, que cet artiste rapporte pas énormément. Comment ? Parce que les artistes abusent aussi. Enfin, tu sais, je peux à la fois taper sur les producteurs parce que j'en suis un, et je peux à la fois taper sur les artistes parce que j'en suis un aussi. Donc, faut pas non plus qu'un groupe qui débute, qui arrive à 10 dans un troquet, puisse espérer avoir 80€ net de cachet d'intermittence, qui représente à peu près le minimum syndical pour 8 heures ou 10 ou 12 heures, enfin peu importe, du statut. Et puis faire un concert comme ça leurs potes, c'est-à-dire 20 pélos, tu vois, en gros, quoi. Parce que le mec en face, comment il fait pour trouver la thune ? Tu vois ? Parce qu'il va y avoir, même s'il se démerde bien, il va avoir une partie de subvention, etc., etc. Mais il va pas pouvoir couvrir ses frais, quoi. Parce que quand on calcule un cachet, tu vois, un cachet de 80€, ça fait 160€, ça coûte, en fait, 160€. Tu vois, je sais pas, en euros, on s'en rend compte bien, c'est 1000 francs. T'imagines 1000 francs multiplié par 10 musiciens, ça fait 10 000 francs. T'as, avant d'arriver à ça, en recette. Tu vois le truc. Donc il faut voir le côté de tout le monde. C'est pas uniquement les musiciens qui sont pauvres. Et puis les producteurs. Je parle des petits producteurs parce que les gros, je m'en tape. Mais tu peux comprendre aussi. Enfin bref. Mais il faut trouver. C'est pas un métier contre l'autre. On parlait de corporatisme tout à l'heure. C'est pas les uns contre les autres. De toute façon, ça avancera. Tous les gens de bonne compagnie ensemble, parce qu'on est tous au même niveau, quoi, quelque part, quoi, que ça soit l'intermittent qui est pas forcément intermittent, à qui va lui manquer un ou deux cachets, parce que c'est grave d'arriver à 507 heures aujourd'hui, quoi, tu vois, c'est pas facile, quoi, avec tout ce qu'on nous a mis dans le cornet. Et de l'autre côté, t'as les administrateurs, les producteurs. Là aujourd'hui, pareil, pour déclarer quelqu'un, il faut un numéro d'objet maintenant pour faire une fiche de paie. C'est tout nouveau. C'est le dernier flicage après la DUE, ça s'appelle le numéro d'objet. C'est l'enfer, tu vois, ça va rentrer en guerre peu à peu, où toutes les petites structures vont peu à peu disparaître, quoi. Chaque spectacle, chaque fiche de paie que tu fais doit avoir porté le numéro du spectacle. Donc, aux ACELIC, tous les mois ou tous les jours, tu vas faire ta DUE, tu vois, ta déclaration à l'embauche pour chacun des musiciens. Et en plus, ton spectacle, il faut qu'il porte un numéro maintenant. Tu vois, ça fait surfichage. Tu vois, code barre sur chacun des entrepreneurs culturels. Alors les gros, on n'a rien à péter, mais les petits, ils vont avoir mal, quoi.
Ce que je critiquais, moi, au niveau des problèmes de concert, parce qu'on reçoit quand même pas mal de papiers ici, de la part de, je dirais, de shows qui sont créés pour les jeunes musiciens et autres, dont sur Marseille, une espèce de salon où on présente les nouveaux musiciens, et on leur demande, moi ça m'a... J'étais hors de moi, parce qu'on demande aux musiciens d'avoir, par exemple, 10 concerts en dehors de la région où ils sont. 10 concerts, effectivement, avec...
Là, tu parles d'avoir accès aux subventions ou d'avoir accès au salon ?
Non, d'avoir accès au salon.
D'accord.
D'avoir accès à ces espèces de concours.
Parce que c'est pareil, pour les sociétés civiles, c'est exactement la même chose.
Voilà.
Si tu fais pas preuve de 10 concerts sur le...
Donc, t'as le droit à 10 concerts. Alors, il faut que tu fasses 10 concerts. Le seul problème, c'est que pour participer à 10 concerts dans des salles, il faut au moins avoir un tourneur avec soi. Et les tourneurs, c'est très difficile à trouver. Et ensuite, il faut avoir fait un album depuis moins de 12 mois ou moins de 24 mois, je crois, quelque chose comme ça. Ce qui déjà enlève toute une série de gens, qui élimine toute une série de groupes qui sont...
peuvent c'est le but,
être... hein. Oui, mais on arrive à quoi ?
À rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même un groupe qui est signé en maison de disque, une grosse signature artiste qui a fait un disque, je suis désolé, mais sur laquelle la maison de disque a mis le PACSIF, tu vois, le PACSIF syndical, hein, parce que bon, ils ont des quotas, ça se vend pas ou ça se vend très peu, et ben salut, du jour au lendemain, t'as été au firmament d'une signature, bah tu l'as dans le cul parce que tu représentes rien, quoi. Donc il y a tellement de groupes qui arrivent aujourd'hui à faire un CD. Alors le problème, c'est que tout un chacun n'y arrive pas. Mais un groupe qui a fait un CD, qui a fait 10 concerts dans l'année précédente, par exemple, et ben déjà là, t'en as 1,5 million. Donc dans ce 1,5 million de groupes, tu vois, alors t'as des barrières de tête sélection et compagnie, c'est comme à l'école, hein, c'est pareil. Hein. Donc c'est un peu le BEPC, là, tu vois, t'es au BEPC. Après, t'as cette vague-là, t'arrives au baccalauréat, etc., etc. De toute façon, je vais rien expliquer à qui que ce soit, on est dans la musique, certes, mais c'est toujours une histoire de potes et c'est toujours une histoire de rapport de force. Donc il y a du lobbying politique qui va donner à Meïkou Yangelé parce que il est super important et qui vient de recevoir la Légion d'honneur. Et à côté de ça, eh ben il y a je vais te donner à toi parce que tu rapportes du pognon. Et c'est une histoire de rapport de force, quoi. C'est toujours pareil, c'est comme dans le cul, hein. Le cul, c'est pareil. Bah, faut rester à 50-50, 60-40, parce que sinon, tu te fais jeter en l'air par ta meuf, ou le contraire, ou tu te fais jeter en l'air par ton cum. Il faut garder des équilibres, quoi. Et ben, la vie, c'est ça, c'est un rapport de force. Faut arrêter de couper quoi que ce soit des grenouilles. Non, pas des grenouilles. De tirer sur les, sur les policiers.
Bon, on va revenir un petit peu dans le domaine de la musique véritablement.
Mais
dans ta vie.
En plein, moi.
Pourquoi avoir pris le groupe Jamaica All Stars ?
Alors, j'ai pas pris le groupe Jamaica All Stars et puis n'y voyais aucune connotation sexuelle en plus. C'est un projet qui. J'avais fait des trucs avant avec. Moi, je m'occupais de Rico Rodriguez, qui est un tromboniste exceptionnel. Voilà, qui a immigré en Angleterre dans les années 60. Qui faisait partie des Scatolites aussi, mais le problème c'était que le taulier et le génie c'était Don Drummond qui était tromboniste aussi, donc il est parti. Moi je m'occupais de lui et j'ai un pote qui venait de créer, qui était en passe de finir son documentaire 52 minutes qui s'appelait Portrait de la musique jamaïcaine, qui s'appelle Pierre Simonin, que je salue. Hop, il avait besoin de finir son reportage, donc avec une série de concerts qu'on faisait avec Rick Rodriguez, entre le New Morning, machin, là, là. Et un an après, on avait créé l'ancêtre du Jamaica All Star, qui s'appelait le Windward Road Band, avec donc les mélanges de 6 Rick Rodriguez, 6 musiciens de Rick, qui faisaient partie de son groupe. Basse, on avait pris Flabba Holt, qui est un grand bassiste jamaïcain, connu par pas mal de monde. Steve Golding, des Roots Radics à la guitare. Ensuite, au cuivre, on a pris Bammy Rose au saxo. On avait coupé un peu la section de Rico. On avait pris Rico au trombone et Johnny Moore, donc à nouveau, à la trompette. Donc, il faisait une heure de show. Moitié Johnny Moore, membre des Scatolites aussi. Moitié Rico Rodriguez, pendant une demi-heure chacun. Et après, il faisait le backing, tout cela, d'un artiste qui est décédé il y a 2 ans, qui s'appelle Justin Hines, qui était un grand ami, il y a 3 ans même, qui était un super ami et qui était un super chanteur. Enfin bref, Justin Hines. Et donc, ce backing faisait Justin Hines pendant une heure après. Voilà, on a fait 8 dates. On a perdu plein d'argent et tout. Et après, Pierre arrivait sur son documentaire et c'était bien de recréer quelque chose, le documentaire arrivant, passant sur Arte un peu partout. Bref, on a voulu faire un peu le Buena Vista Social Club. Mais à la jamaïcaine. Donc on a créé un groupe avec quelques ténors du type Scully Sims, Justin Hines à l'époque, Sparrow Martin, un des directeurs artistiques de l'Alpha Boys School. Il y avait donc Johnny Moore, forcément. Donc voilà, avec ces ténors autour, de mettre des musiciens qui étaient jamais sortis de Jamaïque, qui sortaient de l'Alpha Boys School, qui est l'école catholique qui récupère un peu les mômes dans la rue en déshérence pour leur apprendre la musique. Bon, bref. Et d'où sont sortis un grand nombre de musiciens jamaïcains. Et on s'est dit, on va faire répéter tout ça, on va essayer de faire un disque. Le premier, c'était un live au cours de la tournée. On a vendu le truc, donc c'était un reportage suivi d'une rencontre entre les artistes et comment est le public, donc un débat, et après, concert du Jamaica All Star. Voilà. Et ça fait 5 ans que ça dure, donc on l'a créé le truc, et on l'a accompagné. Aujourd'hui, ça va tourner, alors nous, on s'en occupe plus au niveau du tourneur. C'est Full Force qui va développer ça au mois de juillet, donc il va y avoir quelques dates au mois de juillet, là. Donc l'histoire continue, quoi, à ce niveau-là, quoi. Et c'était vraiment c'est toujours un plaisir, quoi, parce que c'est des potes, de toute façon. Donc c'est super cool, quoi, d'avoir développé ça de ex nihilo, en fait, d'avoir créé un groupe de rien. Voilà.
Est-ce que tu es attiré par les artistes en eux-mêmes ou par le style de musique qu'ils jouent ?
Par les artistes en eux-mêmes.
Oui.
Mais ouais, moi j'aime tout, franchement. J'aime le gros rock'n'roll, j'aime beaucoup le reggae, j'aime beaucoup la salsa, j'aime beaucoup le blues. Il y a plein de trucs, et justement au cadran, donc dans notre salle, on se refusait d'être une salle fichée, quoi. On était suffisamment fichés par les renseignements généraux, donc on refusait d'être fichés au niveau musical, quoi. Donc on a tout fait. Ça allait des premiers trucs hardcore, mais tu peux même pas t'imaginer des concerts de Vomitos, des groupes belges en éructation, avant que ça devienne la mode, tu vois, bien avant Marilyn Manson, à la techno, aux concerts, roots, reggae, blues, tout. Enfin, on a fait du bluegrass, on a vraiment tout fait parce que franchement on aime tout, quoi, à partir du moment où c'est de qualité et que les gens sont de qualité. Alors après, au bout d'un moment, À force de connaître le monde, tu deviens subjectif et t'as une mauvaise vision de, il faudrait pas connaître les artistes, en fait. Parce que t'as une mauvaise vision des gens. C'est-à-dire que les têtes de cons, et ben, si c'est des têtes de cons, ça se répercute sur leur musique, quoi. Donc, au bout d'un moment, tu vas plus l'aimer, cette musique. Alors que, tu vois, faut objectiver toujours dans la vie, quoi. Et ben, c'est difficile quand tu commences à connaître les, tu vois, le monde et et que tu veux pas forcément gagner de l'argent, mais tu fais un truc sympa, quoi, tu vois. Et ben, tu fais correspondre la musique avec le personnage.
Alors, pour en revenir à Asdine, est-ce que sa musique correspond au personnage ?
Ouais, moi j'aime bien, franchement. Moi j'aime bien, c'est un modèle. Quand je dis modèle, c'est un mot d'argot colombien, quoi. C'est un modèle, digne d'être pittoresque, tu vois, digne d'être rencontré et d'être écouté, quoi. Et ça correspond tout à fait. Parce que moi, de toute façon, je cours pas après l'argent, donc je suis vieux, donc j'ai pas envie de supporter les quoi que ce soit. J'ai pas envie de supporter la Cicciolina, donc ça va, je fais vraiment le truc qui me botte. Alors moi, j'ai pas beaucoup d'argent, mais au moins personne me dit quoi faire, et je suis content, quoi. Et donc j'ai envie de bosser avec Asdine, voilà, et j'ai pas envie de bosser avec d'autres même si on s'en fout de, genre, voilà, quoi. Mais c'est non, vraiment. Puis le truc, c'est au bout d'un moment, puisqu'à 25 ans j'ai pas fait carrière dans la haute finance, j'ai décidé de faire ma vie comme ça, et c'est pas maintenant que je vais changer, quoi. Donc je serai jamais riche, mais j'en ai rien à foutre, quoi. Je suis libre, tu vois, et je veux bosser avec Asdine, voilà. Et puis personne me dit le contraire.
Est-ce que est-ce que tu retrouves des ressemblances, je dirais pas au niveau musical, mais au niveau caractère, avec tes groupes jamaïcains qui sont un peu, en général, ceux qui font du reggae et autres, sont un côté un peu, ils ont un côté un peu mystique pour certains, parce que nous on en voit
ici. Mystique bouffonnerie aussi. Hein. Connaissant bien le Jamaican style, connaissant bien les dreads et connaissant bien le rastafarisme, faut arrêter de faire crânerie aussi, tu vois. Ils aiment surtout l'argent. Hein. Donc, comment? Il y a ce côté mystique effectivement chez certains d'entre eux, moi je connais pas, non, je vois pas de côté mystique chez Asdine. Je vois le côté pote global, le côté philosophie sympa, quoi, tu vois, où déjà il est pas casse-couille, il ressemble à ce qu'il fait et il ment pas, donc voilà, c'est tout, quoi. Ce qui c'est pas le cas de beaucoup de Jamaïcains, hein. Je suis désolé, hein, de dire ça aujourd'hui, hein, pour les auditeurs, excusez-moi, mais la Jamaïque c'est pas love and peace, c'est très dur, la Jamaïque, quoi, tu vois, et c'est très dur à tous les niveaux, au niveau de la thune, au niveau des armes, au niveau de tout ce que tu veux, au niveau du cul. Donc faut arrêter de mythifier la Jamaïque.
Je pense pas qu'on mythifie tant que ça la Jamaïque.
Bah, il y a beaucoup de gens qui le font aujourd'hui.
Ah bon, parce que tout le monde sait que la Jamaïque est quand même un pays excessivement dur.
Ah bon?
Bah oui.
Faut le dire aux Baba Dread, tu sais, qui sont dans tous les festivals, qui depuis l'émergence, qui de Pierre-Paul Jacques à Trio, en passant par Sin Semilla, etc., que je respecte tous parce que c'est des potes, qui ont revu une révolution, une révolution un peu autour du reggae, quoi. Mais c'est pas comme ça que ça se passe, hein, à la base, hein. Donc faut relativiser.
Bien,
la philosophie des Lumières. Le reggae vu par la philosophie des Lumières à la française. Voilà.
Voilà, oui, c'est peut-être plutôt ça.
Je pense aussi, moi. Parce que c'est pas ça en vrai. Mais bon, bref.
Quel calendrier des réjouissances dans les mois à venir ?
Il y a les vacances scolaires bientôt, là, ça va être sympa. Pour me barrer cool avec mes mômes. bref. Bon, on va repartir un petit peu en tournée là, avec Pierre-Paul Jacques et quelques concerts qui se font. Asdine va faire quelques premières parties. Donc le 17 mai, c'est un peu loin, c'est à 200 km de Paris, mais bon, bref, c'est un peu la pèlerinage comme à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ça se situe à Saint-Cerf, dans les caves de la Mignonne, pour ceux qui connaissent, c'est pour ça que je dis ça. Enfin, bref. Admirons Dieu, admirons le vin aussi. Enfin bref, plus. Comment donc, voilà. Et puis après, on essaie de développer, donc il va y avoir une série de concerts. Moi je joue et je m'occupe aussi d'un groupe qui s'appelle Marousse, et puis d'un groupe de salsa béninoise qui s'appelle Michel Pinero Orchestra. En fait, c'est le chef d'orchestre, c'est le tromboniste de Tikenja Fakoli qui fait de la salsa béninoise. C'est super bien. Il s'appelle Michel Pinero, c'est mortel. Asdine, c'est mortel. Marousse, Pierre-Paul Jacques. Donc tu vois, j'ai pas beaucoup de choses. Les fascistes viennent de partir de Colombe, donc j'espère qu'on va pouvoir parler culture. Il va peut-être se passer des choses sympas, quoi. Puis les Uluberlus sont toujours là. Et puis il y a plein de gens qui viennent, il y a plein de gens qui demandent des trucs, du dépannage. Donc nous, avec nos petits moyens, si on peut donner un coup de main, c'est top.
Voilà, écoute, tu seras toujours le bienvenu ici, si tu as des artistes à présenter et autres.
Avec plaisir.
L'antenne
est
ouverte.
Merci beaucoup en tout cas pour cette
Merci
accueil.
Fred, c'est nous cool. Allons passer en deuxième partie sur Asdine.
On va faire un break. Non ?
Et puis on va s'arrêter un petit peu, voilà.
Ah bah tu vois, le clash. Tu vois, juste au break. C'est marrant, hein, toi. J'ai 1 minute pour téléphoner avant le break.
Autre radio, autre culture. Eh bien, nous voici dans la deuxième partie. Donc, cette deuxième partie, on a Asdin, guitariste, chanteur et passionné par le blues.
Entre autres.
Entre autres, c'est-à-dire ?
Je suis passionné par notre truc, la politique aussi.
C'est plus difficile à mettre en musique, je trouve.
De la politique ?
Oui.
Mais il y en a qui la mettent bien en musique en ce moment.
Alors, je sais que tu es passionné par le blues, et d'où te vient cette passion ?
À vrai dire, je sais pas, parce que ça s'est imposé tout seul, comme ça. Quand j'ai commencé à faire de la musique, c'était le blues. Il n'y a rien d'autre qui sortait. J'ai essayé d'autres choses, mais c'est tout ce qui a pu sortir de moi. Donc, je me suis dit, ok, allons-y.
Oui, mais enfin, c'est pas inné, le blues, si ?
Hein ? Si, justement, je crois que t'as ça dans la peau, tu l'as pas. Ça ment pas. Il n'y a pas de Star Academy du blues, hein. Ça n'existe pas, ça, c'est pas possible. Ou alors ce sera plus du blues.
Alors tu nous avais dit il y a, oui, ça fait déjà quelques années maintenant, que le blues... Attends, on entend ta bouteille.
C'est de l'eau, hein, c'est pas du whisky à cette heure-là.
Tu nous disais que le blues ne pouvait se chanter que dans la douleur. Tu as toujours cette façon de voir ?
Dans la douleur, non, dans tous les sentiments, en fait. Le blues... Un jour, on peut avoir beaucoup, très peiné, donc on va l'exprimer par ce biais. Si on est heureux aussi, le blues, c'est aussi une musique heureuse. Il faut arrêter les clichés dessus en disant la musique du galérien, de la souffrance, ça exprime aussi de la joie et plein d'autres très jolis sentiments de la vie.
Parce que par exemple, Janis Joplin qui a chanté du blues, c'était pas spécialement très gay.
Oui, mais déjà c'était beau. Je ne sais pas ce qu'elle avait au fond d'elle-même. En tous les cas, quand on l'entend, elle avait quand même quelque chose de dur à exprimer.
Oui, c'est ça.
Mais parce que je ne la connais pas personnellement.
Oui, maintenant c'est un peu trop tard d'ailleurs. À quel type de blues te rattaches-tu vraiment ?
Quel type de blues ? Moi, c'est ce qui vient du Delta, le plus primaire. Ce qui m'intéresse le plus, ce qui m'a le plus happé, c'est des gens comme John Lee Hooker, Sunhouse, Muddy Waters, tous ces gens qui viennent du Delta.
Donc tu serais jamais attiré par ce blues un peu électrique du côté de Chicago ?
Si, j'aime bien. Si, mais ce sont les mêmes après qui sont montés. Hein. John Lee Hooker, Muddy Waters sont ensuite montés à Chicago. Ils ont suivi un peu ce qui se passait économiquement dans le pays. Les gens du sud montaient vers le nord parce qu'il y avait plein de grandes usines qui se montaient, comme à Détroit ou Chicago ou d'autres villes comme ça, quoi. Et là, ils ont adapté leur blues de la campagne. Ils en ont fait un blues urbain. Et surtout est arrivé le moment de l'électricité.
Et toi, comment arrives-tu à mélanger à la fois cette espèce de blues américain avec tes racines du Nord-Afrique ?
Je garde l'essentiel du blues, c'est-à-dire que je ne sais pas de les imiter, j'essaie juste de capter ce qu'ils dégagent dans leur chant, dans leur musique, et de l'adapter, et parce que je ne suis pas un noir américain. Je suis assez blanc de peau, je ne suis, premièrement, deuxièmement, je ne suis pas américain du tout. Je suis un Français d'origine maghrébine et j'ai essayé d'adapter tout ça à ma sauce, avec ma passion pour ce blues rural et mon expérience de vie des banlieues françaises, de mes voyages aussi en Afrique et de ma vie tout simplement.
Quand tu es allé en Afrique, est-ce que tu as retrouvé justement ces fameuses racines du blues dans la musique africaine ?
C'est pas en y allant, c'est en les écoutant, parce que quand je suis allé en Afrique, j'étais plutôt du côté ouest de l'Afrique, au Sénégal. Mais oui, surtout avec beaucoup de chanteurs maliens, le plus connu, donc Ali Farka Touré, et aussi dans la musique des griots, africain, et ce côté tribal aussi dans la musique africaine qu'on retrouve dans le blues.
Alors justement, tu parles d'Ali Farka Touré, il est quand même vu par les musicologues comme un des grands bluesmen africains.
Oui, bien sûr. c'est une vérité. Vous vous rapprochez Ali Farka Touré et Johnny Hooker ensemble, vous écoutez séparément, après vous, vous allez sentir tout de suite les similitudes qu'il y a entre eux.
Et toi, dans tes chansons, lesquelles sont pour toi les plus proches du blues?
Je sais pas, elles sont toutes proches du blues pour moi, puisque c'est quelque chose qui est en moi. Et que je sors après, oui, j'aime bien aussi le rock, j'aime bien le reggae, j'aime bien la chanson française aussi. Mais je pars toujours sur une base qui va être blues, si on va vraiment la décortiquer, on va s'en apercevoir. Et après, j'essaye de l'amener un petit peu plus le rock. De toute façon, le rock, c'est du blues. Hein. Et de garder une linéarité entre tout ça.
Quel est le musicien de blues auprès de qui tu te sens le plus proche?
Johnny Hooker.
Johnny Hooker.
Ouais. C'est son esprit rural, c'est un gars, une guitare, jamais deux fois la même version de la même chanson, la profondeur de la voix, son jeu de guitare très primitif et rempli de feeling. Voilà, moi je pense que c'est le direct descendant, aujourd'hui il est décédé malheureusement, mais c'était le témoignage vivant de cette histoire du blues du début du XXe siècle. Et je pense qu'il y en a eu, il y en avait certainement plein d'autres, mais lui, comme c'était un des plus emblématiques, puisqu'il a percé sur le monde entier, donc c'est celui qu'on connaît le plus, quoi.
Il y a un bluesman actuellement vivant?
Actuellement vivant, oui. J'aime bien, il y a une jeune génération des Corey Harris, Elvin Youngblood Heart, voilà, c'est de là. Keb Mo aussi, un peu moins, mais surtout Corey Harris, c'est vraiment bien. Et ce gars, en plus, il a un truc entre... Il a très vite compris son lien entre la musique noire américaine et l'Afrique. D'ailleurs, il a été en Afrique faire des échanges avec des musiciens africains et tout ça. Et il le fait très bien, ça.
Alors, il y a quelques années, tu nous faisais référence à Ben Harper. Tu te sentais des affinités avec Ben Harper?
Des affinités, ouais, j'aime bien quand je joue tout seul avec sa guitare. Avec les Weizenborn ou ses Lap Steel, voilà, surtout quand je l'aime bien. Oui, je l'aime bien parce que c'est un très grand musicien et c'est vraiment super ce qu'il fait. Mais sans plus, je préfère les vieux.
Tu as fait deux disques, tu es en train d'en préparer un troisième.
Ouais.
Et est-ce qu'il y a un changement véritablement ou tu restes dans une continuité?
Ben, je suis dans une continuité parce que c'est toujours moi. Donc j'évolue, je reviens plus aux sources là en ce moment, puisqu'on enregistre une guitare, une voix en ce moment, avec le tout en analogique. On essaye de ne pas passer par l'ordinateur ou alors vraiment très peu.
Cela donne quoi, par exemple? Ça donne quelque chose de beaucoup plus profond de...
Ben, je sais pas, moi, si c'est plus profond, c'est toujours moi, quoi. Donc, j'essaye, à chaque fois que j'interprète quelque chose, de le faire avec mes qualités de l'âme et du feeling. Après, je pense que c'est les gens qui diront si c'est profond ou pas, parce que je peux pas arriver à dire, écoute, moi, je vais te dire un truc très profond, là, tu vas voir. Je chante, je fais des trucs, et puis après, on voit si les gens trouvent de la profondeur... C'est super, en tous les cas, parce que moi, je triche pas, quoi. Je suis direct.
Alors, il y a une chanson que tu avais dans ton dernier album, qui était Salam Alikoum, qui a été reprise également dans un DVD qui est sorti assez récemment. Vous êtes deux à chanter. Il y a, tu vas me rappeler son nom...
Ibrahima Ndiaye.
Parce que j'ai du mal à le dire.
Saint-Louis, Sénégal.
Et il y a toi. Et donc, vos voix, toi, tu as une voix quand même relativement grave, qui peut monter très très haut. Et lui, il a une voix assez particulière également, qui se marie très très bien toutes les deux.
Ouais.
On a ce côté africain, et en même temps, ce côté un peu américain. Pour moi, je trouve que tu as réussi quelque chose de très beau, qui donne beaucoup d'émotions quand on l'écoute. Est-ce que tu en as eu des échos très très favorables de cette chanson?
Oui, les gens l'aiment bien. C'est pas ma préférée, mais bon, cette chanson, déjà, elle s'appelle Salam Alaikum Sam. Ibai Ndiaye et moi, on avait un copain qui s'appelait Samuel Ilien, qui est décédé en 2003. On s'est connus par le biais de ce garçon-là. Et bon, un jour, j'étais chez lui, là, il y avait une guitare qui traînait, j'ai trouvé le riff de la truc et tout, je chantais, je pensais à Sam, Salam Alaikum, Salam Alaikum. Et voilà, et automatiquement, ça s'est fait dans la minute qui vient. Je lui dis, tiens, essaye de dire un truc ou deux en Wolof dessus. Donc, Il a mis quelques mots en réponse à ce que je disais sur les trucs, et après, c'est commencé. Mon frère africain, moi le maghrébin, pour Samuel Ilien, et salam alaikum. Voilà quoi. Ça s'est fait tout seul en 2 minutes. C'est la chanson la plus rapide que j'ai pu faire. Avec cet esprit de Samuel dedans, c'est pour ça certainement qu'elle est réussie, parce qu'encore une fois, elle est véridique quoi. On raconte pas de conneries, nous, madame, dans nos chansons. On dit toujours ce qu'on pense. Quoi, presque tout.
Dans tes chansons, quelles sont celles que tu préfères ? Est-ce que t'as des...
Oh, moi, je préfère Les Enfants de l'Intifada. Parce qu'elle m'a valu quelques déboires, quelques problèmes avec les quelques professionnels que j'ai pu approcher. Donc, et ça me plaît. Ça les emmerde et ça me fait rigoler.
J'ai l'impression que tu as une dent contre justement ces fameux professionnels, entre guillemets.
Non, j'ai pas une dent, j'ai une mâchoire entière. Non, mais ça m'a fait marrer parce qu'on m'a dit, il faut pas parler des Palestiniens, tu comprends. Ou alors, il y a certains, manager d'artiste très célèbre, mais je ne citerai pas le nom, en France évidemment. Il m'a dit, ouais, mais tu comprends, Asdine, il faut parler des Palestiniens, il faut en parler au troisième degré. J'ai dit, ah ouais, excuse-moi, pareil, là, la chanson Salam Aleikoum. Il m'a dit, mais tu comprends pas, Asdine, faut pas que tu chantes cette chanson-là, mais tu te rends pas compte, t'as vu ton nom, comment tu t'appelles et tout. J'ai dit, ah ouais, excuse-moi, j'aurais pas dû, mais je le fais quand même. Donc voilà. Donc ça me fait marrer, moi.
Qu'est-ce qu'il reproche, justement? Parce que là, on comprend pas très bien.
Faut pas parler des Palestiniens, c'est pas vendeur, style, c'est pas vendeur. Enfin, moi j'en parle au premier degré et j'en parle avec véracité et avec respect de tout le monde, de toutes les communautés. Donc je vois pas où il y a un problème.
Ouais, on peut pas.
Voilà, et en plus le combat est juste, je ne vois pas en quoi. Et puis moi, on pourra pas me dire que je le prends en vol parce que je veux dire, c'est pas très. On en voit pas beaucoup d'artistes qui soutiennent la Palestine, en tous les cas ouvertement
en
France. Et les peu qui ont essayé, ils se sont toujours fait casser. Tout de suite par le business. Donc moi je le fais parce que c'est une cause que je connais depuis que je suis petit et que je supporte. Et c'est des gens, et j'ai quelques copains palestiniens, je peux vous dire que ce sont des gens formidables. Donc
non,
voilà, bravo.
De toute façon, pour les professionnels, ils ne soutiennent personne au niveau politique. Je veux dire, ça ne les intéresse pas. Et ils ne cherchent que finalement un profit.
Non, c'est pas ça, parce que mes chansons sont très bien mélodiquement et tout. Elles sont bien.
Oui,
tout le monde
tout
le voit
fait.
Quand les gens en public, on voit bien qu'elles sont bien. Non, c'est le contenu. C'est le contenu. Donc, moi, c'est non. Finalement, en fait, cette chanson-là, eh ben, c'est la première que j'ai pu sortir dans le circuit traditionnel, puisqu'elle est sortie sur une compile. Chez Krista Records, qui s'appelle Les Guerriers Pacifistes. Et c'est celle-là qui a été sortie. Alors moi, ça me fait marrer. Je rigole bien. En plus, la chanson, j'invite nos auditeurs à venir l'écouter sur mon MySpace. Verront bien que dans les paroles, il n'y a rien de subversif. Bien au contraire.
Non, la chanson est très très belle.
Mais au contraire, je suis plutôt un gars qui rassemble.
La chanson est très très belle, effectivement.
Elle est belle, la chanson, en plus.
Oui.
Quand même.
Dans ton disque que tu vas sortir, j'espère que tu viendras nous voir au moment de sa sortie.
Bien sûr, parce que vous savez, je l'enregistre pas très loin d'ici, alors
oui,
je vous
sais.
Voir.
Tu as mis une connotation beaucoup plus blues américain, en reprenant des vieux titres, hein. Donc certains j'ai entendu, qui sont magnifiques. Qu'est-ce que tu penses apporter de plus ?
C'est-à-dire que moi, je fais pas de copie, quoi. Je regarde pas comment il a joué un tel ou un tel. On reprend quelques vieux blues traditionnels, ceux que j'aime bien. Moi, je l'ai dans les oreilles. J'arrive ici, dans le studio. Philippe prépare le matériel. On ouvre le micro, on laisse tourner la bande, on joue. Voilà. On réécoute. Il y en a toujours une de bien qui sort. N'est-ce pas, Philippe? Donc, c'est libre, quoi. C'est libre.
Mais il n'y a aucune contrainte.
Il n'y a pas de contrainte, voilà, et on s'en met aucune. Et en même temps, on essaye de trouver. Philippe fait un travail sur le son, de façon à nous remettre dans des conditions pratiquement similaires à ce que les gars enregistraient dans les années 30-40 dans les studios américains. Et on essaye de recréer à peu près ces conditions-là, quoi.
Mm-hmm.
Donc je m'assois, j'interprète, je prépare rien de spécial, quoi.
Et tu sens que ça, c'est beaucoup plus bénéfique qu'avoir des contraintes de temps dans un studio où on
déjà,
est un peu plus
déjà
stressé.
Derrière le micro, il n'y a aucune pression. Hein. Rien, on joue, on sait très bien que si ça ne le fait pas, on ne gardera pas, c'est tout. Et voilà, on joue plus libéré. En tous les cas, moi, personnellement, de toute façon, ma guitare aussi joue plus libéré.
Alors justement, à propos de guitare, quelles sont les guitares qui t'intéressent le plus dans ce jeu bluesien ?
Moi, toutes les guitares, du moins qu'elles ne sont pas chères et de très bonne qualité. Oui, les guitares, j'aime bien moi les guitares acoustiques, celles qui ont un peu vieilli, celles qui ont quelque chose à dire, qu'on l'apprend sans l'instrument s'il y a quelque chose à dire. Les lap steel aussi, les vieux lap steel, je ne veux pas citer de marque, hein. J'aime bien aussi le Weissenborn, hein, c'est cette guitare à manche creux que Ben Harper a remis au goût du jour avec un très grand talent, hein, qui était un peu tombé dans l'oubli. J'aime bien toutes sortes de guitares en enregistrement. On a utilisé autant une petite guitare classique hein, qui a été achetée rien du tout et qui sonne super bien à des guitares de grande valeur. Moi, je crois que c'est pas la guitare qui fait le truc, c'est le guitariste, c'est le gars qui joue dessus, qui va y donner quelque chose, ça part par là. Maintenant, c'est vrai qu'une très bonne guitare ou quelque chose, un très bon instrument arrivera peut-être un peu mieux à le rendre, mais quand vous prenez ces vieux bluesmen, vous trouviez, ils avaient des guitares, si vous les prenez, vous pouvez pas les jouer, mais eux, ils les jouent.
Tu es tombé sur des instruments d'époque
Oui, bien sûr, j'en ai quelques-uns, oui.
Il y a une sonorité différente par rapport à ceux d'actuel ?
Je sais pas, ça se trouve, des fois c'est psychologique. Maintenant, sur ce qui est électrique, sur les micros, oui. Ouais, les anciens micros, quand ils sont encore en bon état, oui, il n'y a pas de problème. Après, je pense que c'est psychologique. Puis un instrument, sa vie, ça témoigne d'un passé. Quand on le prend, qu'on commence à jouer, on le sent tout de suite. Ou alors, peut-être des fois, on se fait tout simplement des films, mais finalement, on arrive à sortir un truc bien, alors c'est cool.
Est-ce que tu peux être amoureux d'une guitare dont tu ne te sépareras jamais, que tu garderas
Je sais pas, mon expérience dans la vie m'a dit ne jamais dire jamais.
On voit par exemple des musiciens ici qui passent, qui sont des guitaristes, qui finalement sont à l'affût de la moindre guitare sortie de chez un luthier. Et qui vendent leurs anciennes guitares sans...
Moi, je sais pas. De toute façon, je cherche des bonnes guitares et pas chères, et ça se trouve. Et puis, vous savez, peut-être c'est un peu comme les femmes. Hein. On ne séparait jamais, moi, je ne séparais jamais. Mais bon, quand c'est fini. Hein. Jusqu'à la prochaine. Bon, il y a des instruments, c'est vrai, qu'on se dit pendant une période là. Et puis après, on va découvrir autre chose. Et puis, ça va repasser un petit peu à l'oubliette. Mais c'est l'existence. Tant qu'on peut les garder et qu'on a assez d'argent pour entretenir le cheptel, et ben, on les garde. Après, si la vie quotidienne nous rappelle alors et dit, mon gars, il faut un petit peu d'argent pour payer les impôts, les taxes, les frais, le quotidien, quoi. Et ben, il y a des fois, on est obligé de s'en séparer.
Est-ce que tu es un garçon superstitieux ?
Non, pas plus que quelqu'un d'autre. Des fois, je me dis deux, trois conneries dans la tête comme ça, de superstition, mais j'en dirai pas plus, je vous le dis. Bon, pas plus que ça. Si, je peux être superstitieux, je me dis que fais du bien, t'auras du bien. Si tu fais du mal, t'auras du mal.
Oh, c'est pour la superstition, ça.
Non, mais voilà, c'est ce que je me dis, moi.
Quels sont tes projets à venir, à part la sortie du troisième album ?
Dans l'immédiat ?
Oui, dans l'immédiat.
Ben là, je vais aller déjeuner bientôt.
Oui.
Projet actuel, ben, là, voilà, je vais rencontrer des gens là, de Colombes, là, l'association là, donc Fred Giscra, que vous avez entendu,
tout à l'heure, enfin oui,
dans l'émission, et qui me donne un coup de main pour la scène. Et là, vraiment, je suis super content de les rencontrer parce qu'enfin, des gens avec qui je peux parler.
Oui, ça, c'est quelqu'un qui.
Avec qui je peux parler sans détour et que j'ai pas besoin de me dire. Il ne faut pas que je lui parle comme ça parce qu'il va croire que je suis comme ça. Non, on se parle direct, quoi. Et puis on se comprend tout de suite. Et ça, c'est bien. Et c'est rare.
Ah là, je vois que tu étais beaucoup plus dynamique quand tu parles de Fred.
Oui, non.
Et de tes relations avec lui.
C'est bon gars, attendez.
C'est quelqu'un qui se bouge énormément pour les artistes, hein, visiblement.
En plus,
c'est ce qu'on a entendu.
C'est un mec qui fait plein de choses. De toute façon, il a assez parlé, vous voyez. Il a une belle voix, on l'entend dans la partie de son émission.
Oui, oui. Hein
non, c'est bon gars. Et puis toute son équipe de l'assaut des Zulu Berlus de Colombes. Et même tous les gars qu'il a autour de lui, qui travaillent avec lui, tout ça, je vois, on a des valeurs communes de fraternité et de respect envers les autres. Et en même temps, on ne se laisse pas marcher sur les pieds. Et ça, croyez-moi, aujourd'hui, avoir le courage.
Donc tu as un spectacle avec lui, mais...
C'est-à-dire qu'il est aussi manager de groupe, chanteur de reggae Pierre-Paul Jacques.
Oui.
Et là, il m'a programmé sur la première partie d'un concert de Pierre-Paul Jacques le 17 mai 2008 à Sancerre. Donc je vais faire sa première partie et puis il va me trouver d'autres trucs.
Tes albums, on peut les trouver à quel endroit ?
Le premier album qu'on a coproduit avec le studio Labrou, vous le trouverez sur CD Baby, un site américain, un très bon site américain. Vous le trouverez sur CD Baby, sinon vous nous contactez sur les MySpace ou email et puis on peut vous le vendre directement.
Très bien. Eh bien, on mettra de toute façon sur Internet les références, ouais, ainsi que les références de tes deux albums qui sont déjà sortis. On te souhaite bonne chance pour ton concert, et beaucoup de succès.
Merci bien.
Et puis, écoute, à très bientôt, au moins pour la sortie de ton troisième album.
Inch'Allah.
À bientôt, Asdine.
Merci. Vous aussi, portez-vous bien. Ciao.
Au revoir. Ici, c'était Autre Radio, Autre Culture. À très bientôt. Autre radio, autre culture.